Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, l'interview se déroule au Théâtre de Die à l'occasion d'une résidence qui est pratiquée par la compagnie Ikari et dont Thomas Pachou, bonjour. Vous êtes le metteur en scène ?
Directeur artistique, on va dire plutôt, de la compagnie. Et je travaille aussi la lumière et principalement les lasers depuis quelques années, qui sont mes matières principales.
Donc vous êtes ici pour une compagnie Ikari qui présente un spectacle qui s'intitule Post-H et ça sera le mercredi 6 novembre à 18h. Donc c'est un spectacle où on peut trouver du théâtre, de la danse, du cirque, c'est un melting pot.
C'est un spectacle qui mélange cirque jongle principalement, laser et bal, enfin le... En fait, c'est un trio, corps, balle et laser. Donc on est plutôt dans des disciplines du cirque, mais pas vraiment. Un peu dans les disciplines de l'art numérique, mais pas non plus complètement. Alors, où le classer dans les cases du spectacle vivant, c'est compliqué. Mais voilà, ça reste une forme un peu hybride et c'est bien comme ça.
D'ailleurs, devant nous, il y a une table avec tout un tas d'accessoires, d'outils, de fer à souder. Et sur la scène, donc, des préparatifs. Tu parles de laser, c'est-à-dire qu'il y aura une grande partie du spectacle vouée au laser.
Le laser travaille tout ce qui est espace. C'est le monde dans lequel évolue le jongleur. Il crée par sa matière, il crée vraiment une matière qui semble physique dans l'espace. Il vient poser des lignes, poser des espaces, qui vient contraindre le jongleur ou lui donner des lieux de jeu, des endroits de jeu. Donc oui, la matière laser est une matière, enfin la matière lumière est une matière importante dans ce spectacle. Et elle vient se mélanger et travailler avec le jongleur et ses balles.
Sur la scène, un espace très délimité, hein. Je ne vais pas tout mettre en détail, mais il y a beaucoup d'électricité dans ce spectacle.
Beaucoup d'électricité, oui et non, pas plus que d'autres spectacles. Sur scène, on a effectivement un carré au sol, délimité par un carré de LED, qui vient contraindre l'espace. En fait, on raconte dans Post-H un petit peu comment l'homme dans notre monde se retrouve pris dans des espaces-temps, des espaces physiques, des espaces du travail, enfin toutes sortes d'espaces qui viennent le contraindre, qui viennent le limiter, qui viennent le transporter, enfin qui viennent le contraindre, c'est le mot premier. Et dans Post-H principalement aussi, comment à travers l'outil, donc l'interaction avec la balle, on vient s'empuissanter, se grandir, se donner de nouveaux accès. Et comment dans ce travail-là, on vient aussi perdre par moments des côtés de nous-mêmes. On se retrouve typiquement avec l'ordinateur, avec l'informatique, qui nous donne plein de nouveaux outils, qui nous donnent beaucoup plus de pouvoir, et qui en même temps, dans le même temps, nous font perdre énormément de liens sociaux, de liens aux choses, de liens à la terre, de liens au monde. Et c'est un peu ce qu'on vient poser dans ce spectacle, d'où effectivement ce carré qui est un espace dans l'espace, enfin un espace dans la scène, qui vient poser un endroit assez restreint dans lequel on évolue pendant toute une partie du spectacle.
À voir la scène, je ne peux m'empêcher de penser à Francis Bacon et ses peintures de ces humains justement cloîtrés dans des espaces contraints.
Alors, je connais malheureusement pas Francis Bacon, il va falloir que j'aille jeter un œil, mais oui, peut-être.
Justement, dans cet esprit-là, c'est un décor plutôt virtuel, minimaliste, malgré tout.
On travaille sur une scénographie effectivement très minimaliste, puisqu'elle n'est constituée que de ces quatre rubans de LED. Et elle est complètement virtuelle, puisqu'elle n'est travaillée que de lumière. Ce sera principalement la lumière qui crée tous les espaces dans lesquels, enfin, qui transforme complètement le plateau, qui le réduit, qui l'ouvre, qui vient travailler l'espace. Donc, oui, des espaces. Réduit, virtuel, mais au final très physique, puisque cette lumière, une fois qu'elle est marquée dans l'air, elle semble vraiment physique, elle semble vraiment palpable, vraiment, elle vient vraiment créer des murs.
Donc des cloisons virtuelles, mais visibles.
Des espaces virtuels, mais physiquement présents. Ouais, si on veut, on peut dire ça comme ça.
Est-ce que c'est pour vous un avantage, l'avènement du numérique dans le spectacle vivant?
C'est mes outils, donc je dirais pas que c'est un avantage. Moi, ça fait 10 ans que je travaille les outils du numérique dans le spectacle vivant, sur des formes très diverses et variées, pendant tout un temps pour d'autres personnes, aujourd'hui pour mes projets. C'est surtout de nouveaux outils, c'est de nouvelles, de nouveaux, de comment dire. Oui, c'est de nouveaux outils, c'est des outils qui nous permettent de raconter les choses un petit peu différemment, de les déplacer un petit peu, de raconter le numérique aussi et de le déplacer, de le questionner, ou de raconter notre monde. C'est pas une discipline à part entière, c'est juste de nouvelles pratiques de scénographie, d'interaction. Je pense que le spectacle a toujours été un peu à la pointe de la technique et de l'outil. La technologie n'est que les nouvelles techniques du monde d'aujourd'hui. Et du coup, c'est intéressant de s'en emparer, de les détourner et de voir ce qu'on peut raconter avec et comment est-ce qu'on peut les transposer ailleurs.
Sur scène, il y aura combien d'artistes?
Sur scène, un artiste, un jongleur. Donc ce sera Alexis Rouvre sur la sortie de résidence ici. Après, on travaille avec un autre jongleur, où il travaille au plateau en alternance, mais qui me permet aussi, mais qui du coup travaille aussi beaucoup avec moi en salle, qui me permet d'avoir un regard extérieur de jongleur, ce qui pour moi est assez précieux, parce que j'ai un précédent travail où je travaille en plus sur de la danse, mais qui est un médium, une corporalité que je maîtrise, que je comprends beaucoup mieux. La jungle, j'ai encore beaucoup de mal à vraiment maîtriser tous les possibles, et comment on peut tisser des chemins avec ça, comment sortir de la performance jonglistique, pour l'emmener dans un propos et dans un fil narratif, enfin, ou fil dramaturgique, plus vivant, plus intéressant. Du coup, c'est assez précieux de travailler avec Loïc là-dessus. Et il nous rejoindra en toute fin de résidence, David Guéra, qui fera la composition sonore sur les prochains temps de travail.
On peut peut-être résumer le motif de ce qu'il y aura à voir sur cette scène.
Sur Postage, vous pourrez découvrir du coup un trio entre le corps et la physicalité d'un homme, son interaction avec les balles qui prennent une vraie place, qui deviennent une vraie entité, ce deuxième corps sur le plateau, et tout ça posé dans un espace et dans un corps de lumière. Je parle aussi de corps puisque c'est une matière qui peut être très vivante, qui peut être très très physique en tout cas, et qui est matériellement présente dans l'espace, qui n'est pas que de la lumière pour éclairer.
Un spectacle où les comédiens se meuvent sans mot dire, ou il y aura des dialogues?
Il n'y aura pas de dialogue. Sans mot dire, ça dépend ce qu'on appelle mot. Est-ce que les onomatopées sont des mots? Si les onomatopées sont des mots, on aura peut-être quelques petites interjections, mais non, ça reste, hein, c'est un spectacle. Il n'y a pas de texte, pas de parole en tout cas.
Un spectacle d'image avant tout, alors.
Un spectacle d'image avant tout, mais qui nous emmène quand même, j'espère, dans des questionnements et des et une histoire, enfin, en tout cas, emmènera le spectateur et vient un petit peu le questionner sur sa place dans le monde et l'interaction avec le monde.
Un spectacle qui peut interroger donc le spectateur. Est-ce qu'il laisse passer, oui, est-ce qu'il laisse penser à de l'optimisme ou du pessimisme en finale?
Pour le moment, là où on en est aujourd'hui, on se termine sur une note très pessimiste. Mais il nous reste tout un tableau à écrire qui permettra de réouvrir et d'essayer de retrouver un équilibre, en fait, l'ouverture. Là, on a toute une première partie qui raconte comment ce monde nous fait disparaître. Et il reste tout développé, toute une partie de comment est-ce qu'on retrouve un équilibre, comment est-ce qu'on réouvre là-dedans, comment est-ce qu'on recrée une organicité et une interorganicité dans l'interaction avec notre monde, que ce soit de la technique ou la terre ou n'importe quoi.
Vous parliez de réécrire une autre partie à venir. Comment ça se conçoit, justement, ces parties? Vous vous inspirez d'ouvrages ou ce sont des confrontations de pensées qui modulent ou qui construisent une narration?
Je pense que les influences sont multiples. Je saurais pas les dire, mais c'est tout un questionnement qui, moi, m'a traversé et me traverse aujourd'hui. J'ai vécu de nombreuses années à la ville, je me suis un peu perdu pendant un temps. Je suis passé plus ou moins par le burn-out, je suis passé par différents espaces, hein. Et je me suis retrouvé en quittant la ville, en me trouvant des espaces de campagne. Après ça, c'était mes espaces à moi qui étaient ici, mais du coup, de retrouver des temps, de retrouver des espaces, de retrouver un lien aux choses, un lien à la terre, un lien à moi-même. Je me suis beaucoup recentré aussi sur ces espaces-là. Donc ça a beaucoup nourri le propos de cette forme et de la forme précédente, Ascension. Et après, j'ai aussi, du coup, avec le temps, pas mal lu autour de... Enfin, lu ou documenté ou écouté ou discuté. Donc ces différents sujets qui me parle et qui me questionne aujourd'hui, hein, qui sont mes questionnements du moment. Puis c'est des questionnements de beaucoup de personnes, je pense, et de beaucoup d'artistes aussi autour de moi. Du coup, c'est les influences, elles sont, oui, elles sont dans notre monde, elles sont politiques, elles sont sociales, elles sont un peu partout. Après, comment est-ce qu'on écrit ici? Ça s'est d'abord posé par 2 temps de recherche qu'on a menés sur 2 résidences l'an passé, il y a 2 ans, avec Loïc, hein, qui étaient des résidences de recherche vraiment pour voir comment est-ce qu'on pouvait confronter nos matériaux, où est-ce qu'ils pouvaient se croiser. Donc les matériaux de la jungle d'un côté et du numérique, de la lumière de l'autre. On a essayé plein de choses, avec toujours c'est un petit peu cette idée en tête de ce propos de... Et depuis la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, oui non, la semaine dernière, on sort en fait de résidence ici à la navette Saint-Laurent-en-Royans. On a attaqué le travail ici lundi, enfin lundi, depuis ce lundi. Du coup, sur ces 2 dernières semaines, à Saint-Laurent puis ici, on a beaucoup, à partir des différentes matières qui ont été trouvées, commencé à tisser et à tisser un lien de comment est-ce qu'on rencontre. Outils, comment est-ce qu'on rencontre la balle, puis comment est-ce qu'on se l'approprie, comment ensuite ça nous permet de grandir dans cet espace, de devenir puissant, puis de cette puissance commencer à se retrouver embarqué par une puissance qui nous échappe, hein, par un outil qui devient plus, pas plus puissant que nous, mais qui nous emmène dans des espaces en tout cas qui sont plus les nôtres, jusqu'à nous emmener dans des espaces où on disparaît complètement. Et reste à trouver comment est-ce qu'on rentre là-dedans dans quelque chose de plus vivant. C'est une trame que j'ai qui était un peu posée de manière assez similaire sur Ascension, mais sur un aspect très ressenti. De Ascension raconte vraiment le burn-out où on a 10 minutes qui les 10 premières minutes, il y a une montée de tension et une montée de qui referme sur le corps du danseur. Où on rentre petit à petit de plus en plus en implosion à l'intérieur de lui-même, jusqu'à faire complètement disparaître le corps du danseur, le faire rentrer dans des espaces-temps physiques vifs, hein, qui ne sont plus possibles en tant qu'humain. Du coup, dans l'espace de tension qui sont très très durs, tant pour le performeur, hein, que pour les spectateurs, qui vivent énormément à travers lui cette montée qui, au début, est une montée de plaisir, mais qui monte en montée en souffrance. Et qui nous emmène ensuite dans différents temps d'éclatement, de reprise de l'espace, puis de reprise, enfin de retrouver un équilibre. Donc ici, ça sera raconté de manière complètement différente. C'est le même dispositif, la même scénographie, Mais le spectacle sera vraiment complètement différent. Et voilà, cette trame qui moi, m'a tissé ces dernières années, c'est un peu celle qu'on essaye de raconter à travers différents accès, différents médiums.
Ça reste malgré tout du théâtre, ou alors on peut aussi parler de performance, d'installation même?
Ça reste du spectacle vivant. Il y a un petit peu de théâtre physique, il y a de la jungle, il y a du corps, de la présence, en tout cas de la présence forte. En tout cas sur Pastache, il y a une présence très forte de l'interprète. Je ne sais pas si on parlerait de performance, puisqu'on est quand même sur quelque chose de très écrit, qui a besoin de, enfin, qui se prend place dans des boîtes noires, et puis oui, c'est pas de l'installation non plus. C'est une forme de spectacle vivant qui rentrera. Je ne sais pas dans quelle case, s'il faut y mettre des cases. J'aime pas trop les cases, mais oui, c'est du spectacle.
On parlerait peut-être de la compagnie Icari. Elle existe depuis combien de temps ?
Icari, on l'a fondée en 2015, je crois. Ça doit être ça. 2015, en fait, j'ai eu un pour des premiers projets. Donc, j'ai bossé pendant 10 ans sur tout ce qui est numérique dans le spectacle vivant, tant pour faire un grand interactif pour un beatboxer que pour faire de la musique avec des gouttes d'eau pour une compagnie de cirque, pour faire de la vidéo. Il y a un moment où j'ai un besoin fort de porter mes projets, enfin une envie forte, oui, puis un besoin plus qu'une envie, où j'ai d'abord été accompagné par ADN et l'atelier Art Science à Grenoble, ADN à Lyon et l'atelier Art Science, sur des premiers projets perso qui étaient principalement autour de l'image et de recherche d'image dans un premier temps. Suite à ce premier accompagnement qui a donné lieu à une installation, Lumarium, j'ai eu envie de bifurquer vers le spectacle, qui était mes premiers lieux de travail, enfin le premier endroit où j'ai développé des recherches. Et là est née la Fond Compagnie Icari. On a eu, depuis qu'elle existe, plusieurs formes. Shape of Light, qui était une forme autour de la danse et du laser purement expérimental. C'était en 30 minutes aussi. En 30 minutes, il y a eu 8 tableaux qui étaient tous des tableaux preneurs, sublimes, mais qui racontaient pas grand-chose, qui étaient vraiment une pièce purement d'image. Suite à ça, est née Ascension, où à partir de ces premières recherches sur Shape of Light, j'avais déjà des images assez précises et fortes de qu'est-ce que je pouvais raconter avec le laser et le corps. Donc, du coup, j'en ai choisi 2-3. Qu'on a vraiment poussé à développer et à travailler pour les développer, pour en faire des tableaux forts. Je continue, c'est toujours de ces matières-là dans Postache, mais qui sont encore d'autres matières qu'on développe. Et il m'en reste encore quelques-unes en stock pour faire une troisième, quatrième forme. Parallèlement à ça, était né un projet qui s'appelle Matière, autour des ateliers de la matière, qui est un projet pour 3 danseurs, qui est un peu en stand-by parce que un peu gros pour la compagnie pour le moment. Même si il continue à me travailler et à rester dans un coin de tête, mais c'est vrai que ça reste un projet d'une ampleur beaucoup plus grosse, et je pense que la compagnie n'est pas encore prête à suivre des projets comme ça.
Quand vous êtes dans une phase de création, même à long terme, hein, puisque c'est le cas pour celui-ci, vous opérez par l'écriture, des annotations, vous constituez une base de travail pour justement construire ce spectacle? Est-ce que vous êtes un peu un explorateur qui prend des notes pour pouvoir ensuite établir une thèse ou son spectacle?
Je prends assez peu, enfin je prends beaucoup de notes je prends des notes quand on est au plateau, mais qui sont plus des notes des notes techniques, des notes de ah ben tiens, il y a ça à retravailler sur mes façons de travailler, de nourrir un propos, sont plutôt sur des bouts de réflexion qui me travaillent sur des temps longs, sur lesquels je prends soit peu de notes. Je suis pas quelqu'un de très, enfin je pourrais en prendre, mais en soi je les relirai pas. Du coup j'ai plutôt un espace où je viens caser des choses, je sais pas trop où, dans ma tête, mais elles restent là et elles me nourrissent. Et puis si elles disparaissent, c'est qu'elles devaient disparaître, et puis disparaître, je pense qu'elles restent toujours quand même dans un petit coin. dans un petit coin, puis elle continue à nourrir les réflexions, nourrir le propos, et du coup nourrir les spectacles, de fait. Mais oui, après, on a tous des façons de travailler. Loïc, avec qui je travaille, lui, il dessine énormément quand il écrit un spectacle. Moi, c'est que le spectacle se construit beaucoup en arrière-plan. Quand je commence à avoir une trame, oui, elle passe. Il y a toujours un moment où ça passe un peu par du papier, où la trame commence à se poser, s'écrit. Il y a aussi des petits schémas, plein de choses. Mais je vais pas écrire des pages et des pages de notes et de trames dans lequel je me replongerai pas forcément. Donc les notes sont plutôt des traces pour sur des temps de résidence me souvenir, me rappeler ou retrouver les pistes. Je travaille beaucoup sur vidéo aussi, ou sur les temps de plateau où on filme, et où par contre je prends beaucoup de temps à reprendre ces matières derrière, les regarder, les travailler, les réagencer, voir comment est-ce qu'elles peuvent se nourrir. Mais non, je prends très peu de notes papier. Mais c'est ma façon de travailler.
En résultat de ces méthodes de travail que vous pratiquez, quels sont les retours des spectateurs qui ont vu vos spectacles ?
J'ai plutôt des bons retours en général. Donc pas stage pour le moment. On a une seule sortie de résidence à la Navette, sur un chantier qui est encore vraiment en chantier. Sur le coup, on a des retours plutôt chouette, avec un propos qui parle, sur une forme qui est à la fois ludique, qui est à la fois vivante, qui est à la fois poétique. Du coup, les gens sont plutôt embarqués. Sur Ascension, qui est une forme très écrite, j'ai des retours pour le coup très forts. Il y a quelques personnes qui n'ont pas aimé du tout. En général, les gens accrochent beaucoup. Je l'ai joué dans des théâtres très différents de théâtre, d'événementiel, et avec des retours du coup assez différents. C'est assez drôle, notamment sur l'événementiel. C'est une forme qui perturbe par la temporalité, parce que c'est une forme très écrite, avec notamment un premier tableau qui se développe sur un temps assez long, puisqu'il se développe sur 11 minutes. Mais c'est des 11 minutes où le spectateur, une fois qu'il est pris, il reste embarqué, et il est emmené. Et avec une espèce de montée de pression qui aussi vient le presser, le pressuriser de plus en plus, pour pouvoir aussi l'emmener ensuite dans d'autres espaces d'explosion, puis d'un deuxième espace qui dure aussi 10 minutes, qui vient doucement rapporter la matière au corps. Donc c'est une temporalité qui n'est pas une temporalité habituelle, en tout cas pour l'événementiel. Dans le spectacle, j'ai eu aussi des retours très forts, dont un, il y en a un qui m'avait marqué, d'une personne qui a quitté la salle à la fin de cette montée de pression sur Ascension, donc au moment de cette fin de 10 minutes, en gueulant un connard. Je comprends mieux le monde dans lequel on vit quand je vois un truc comme ça. Et on sentait vraiment le truc qui sortait des tripes. Et j'ai vraiment regretté de pas pouvoir le retrouver après. J'ai vraiment regretté aussi qu'ils sortent du plateau à ce moment-là, puisque oui, effectivement, c'est là où je veux emmener. Enfin, c'était là où je voulais emmener sur ce moment du spectacle. Après, il y a toute la deuxième partie qui développe, qui permet de retrouver. Mais c'est vrai que sur cette fin de montée de tension, effectivement, on arrive dans des endroits où même moi qui connais le spectacle et qui l'ai vu plein de fois, je reste dans des espaces où je me sens précieux, enfin, où tu te sens pas bien. Où tu te sens mal, mais où par moment il faut passer par là pour ressentir vraiment les choses, pour ressentir vraiment ce que peut impacter le monde sur nos corps, et ce que peut impacter le monde sur nos liens, sur notre, puis oui, sur nos corps physiquement. Et donc oui, les retours sont plutôt en général plutôt chouettes. Après, c'est des formes que j'ai encore du mal à tourner, mais je pense que c'est aussi parce que je passe pas assez de temps dans le livre, donc c'est d'autres problématiques. Mais non, les retours sont en général plutôt très chouettes.
Vous avez en quelque sorte produit combien de spectacles, la compagnie Ikari ?
Postage sera la troisième forme, en forme courte, trois formes courtes pour le moment. et une forme en gestation très lointaine qui est matière. Mais sinon, trois formes courtes existantes.
C'est un spectacle qui est produit pour être représenté dans des salles ou alors il peut être joué dans d'autres types de lieux.
C'est un spectacle qui a besoin de boîtes noires. On a besoin d'une belle qualité de noir. Sur cette forme, ce serait une forme quand même plus orientée, enfin, a priori orientée salle, parce qu'entre les besoins de noir, les besoins de hauteur, il nous faut 5 mètres minimum sous grille. Et d'ouverture, on est, je pense, sur minimum, on va être à 8 mètres. Du coup, on est plutôt sur des espaces plateaux. Et pas trop, enfin, déployer des plateaux moyens, pas des trop petits plateaux, on ne pourra pas rentrer. Et puis des trop grands plateaux, on sera complètement perdu. Du coup, il faut un plateau comme ici, c'est assez idéal dans les dimensionnements.
Ce spectacle donc aborde la place de l'homme hein, sur la planète sur laquelle il est, où il évolue, hein, comme le résume le texte. Quelle est la place du théâtre aujourd'hui dans notre société?
C'est une grande question, elle est multiple. La place du théâtre dans nos sociétés.
Quel est le public qui vient voir vos spectacles principalement?
On a la chance en France d'avoir des théâtres qui sont subventionnés et qui vont chercher des publics, notamment des publics d'école ou des publics qui ont la possibilité d'aller chercher des publics et qui restent aussi encore peu chers parce que subventionnés. Où on a la chance encore d'avoir des publics relativement variés. Après, c'est vrai que le public du théâtre, quand on joue dans des lieux, reste un public plutôt éduqué, plutôt... je sais pas comment, ouais, plutôt, enfin, c'est un type de public qu'on a. Effectivement, on s'adresse malheureusement pas à tout le monde. En tout cas, pas quand on travaille en salle, en intérieur. J'aimerais pouvoir m'adresser à plus. Maintenant, effectivement, il faudrait pouvoir emmener des formes ailleurs, ce qui est vite compliqué avec mes matières, qui ont besoin de conditions un peu particulières. Même si ça me travaille de plus en plus, et si c'est des choses que je vais essayer de pousser à l'avenir. Mais c'est vrai que pour le moment, je travaille surtout en salle. Et en salle, de fait, on touche d'une certaine tranche de la population.
Nicolas Tumultime, il est arraché un fleuve de mes yeux. Et je peux voir le monde tel qu'il est, dans tout ce petit et terrible. Le monde est comme un aquarium colossal, avec un système de filtration de l'eau. Se refaire de la nature pour les petits poissons qui sont désireux de manger leur morceau de limon. L'aquarium a une patron, elle est constamment au cachet de tout le monde. Quand j'entends son son, je me souviens une fois dans une fosse, je traînerai la mort dans la forêt. Je suis arrivé là tous les jours.
Pachou, vous vous êtes prédestiné assez rapidement dans le milieu du spectacle ou vous êtes passé par d'autres étapes?
Je suis arrivé complètement sur le tard, en fait. Le spectacle a vraiment été une rencontre pour moi. J'ai commencé par une formation de... Je suis un débuté d'informatique, je suis dans une école d'ingénieur multimédia, qui n'est pas du tout... Enfin, qui n'emmène pas naturellement au spectacle vivant. Mais j'avais sur cette formation un peu cette idée de mélanger mes compétences techniques à un domaine créatif, artistique. J'ai rencontré le spectacle à ce moment sur un stage de deuxième année d'école où j'étais au Cube à Issy-les-Moulineaux, qui est un centre d'art contemporain, enfin d'art principalement autour des outils du numérique dans l'art, où j'ai d'abord fait une première mission pour un artiste plasticien sur un logiciel qui était je vais dire chiant possible, mais c'est pas le mot. Un développement qui n'était pas intéressant, qui ne m'intéressait pas plus que ça. Où je serais allé faire de l'informatique de gestion, ça aurait été la même. Et sur le milieu de ce stage, j'ai passé une metteur en scène de spectacle, Judith De Paul, de la compagnie Babel Octobre, qui cherchait un développeur pour un Aibo, le petit chien robot de Sony, pour un spectacle sur Yuri Gagarin, où l'Aibo représentait le rôle de Laika. Il se trouvait que je pouvais étendre mon stage, j'ai fait un mois et demi de stage, j'arrivais au bout, mais il me restait un mois et demi de vacances que je pouvais transformer en stage, et du coup j'avais envie d'essayer, ça me paraissait plutôt marrant, plutôt intéressant. Du coup j'ai dit je prends, j'ai fait ce développement et je suis tombé en rencontre avec le spectacle. Je me suis dit en fait c'est l'endroit où j'ai envie de travailler. On est sur des temporalités relativement courtes. Chaque créa, c'est 1-2 ans. Chaque créa, c'est des nouveaux outils, c'est une nouvelle recherche, c'est des gens différents, du coup des manières de travailler différentes, des propos différents. Et chaque projet, c'est un complet renouveau. Complet non, puisqu'il y a des outils que tu développes et puis qui reviennent des briques, et puis tu accumules certaines briques. Hein. Mais oui, chaque projet m'a permis d'aller sur de nouvelles choses et de recréer, de tisser différemment. Là où je suis, où la routine profondément me tue, je ne peux pas vivre 5 ans au même endroit, je peux pas vivre. J'ai un besoin de renouveau régulier. Je pourrais typiquement pas bosser derrière un bureau tout le temps avec les mêmes gens. Pour moi, c'est juste pas possible. Le spectacle m'a offert un endroit où il y a tout le temps un renouveau, où j'ai une vraie place de créatif. On bosse en petites équipes, chacun est complètement autonome, mais on travaille tous ensemble au service d'un même objet et on échange énormément. Du coup, dans ces interactions humaines, l'interaction humaine est quand même très forte par rapport à où j'ai un peu bossé sur des arts plastiques, où là on est vraiment développeur au service d'un artiste. Dans le spectacle, on est au service d'un spectacle. On est au service d'un propos, au service d'un objet. Alors certes, il y a un metteur en scène, un chorégraphe, un directeur artistique qui dit le oui, non, qui dirige un petit peu les choses. Mais on est plus au service de l'objet, de l'objet final, tu es au service de cette personne. Et que cette personne, elle va être autant à l'écoute que le reste de l'équipe, généralement. Après, ça dépend du metteur en scène, ça dépend des chorégraphes, ça dépend les... Il y a des plus ou moins des spots, il y a des plus ou moins... Mais on reste quand même toujours au service d'un objet et qu'on avance tous ensemble et qu'on crée tous ensemble.
Cette création donc, que l'on verra à Die le mercredi 6 novembre à 18h, vous l'envisagez aussi en tournée? Est-ce que vous avez des dates prévues pour le moment?
Alors la création ne sera pas encore finie. Là, c'est vraiment une étape de chantier. On aura dans l'idée à la fin de Die une trame, une ossature. Toute une trame, une ossature qui est vraiment le squelette du spectacle, avec 2-3 parties un peu plus écrites, d'autres beaucoup moins. Le début est déjà relativement écrit. Donc on a cette ossature qui sera la base. Le spectacle est prévu pour 2020-2021, donc saison prochaine. Maintenant, à la sortie de Die, on saura un peu plus où est-ce qu'on en est dans cette écriture, dans cette ossature. Et on va pouvoir rentrer en prod. Et du coup, aller chercher du préachat, des lieux pour le montrer, pour finir d'abord de le créer, et puis pour le montrer la saison prochaine. Je ne peux pas vous dire pour le moment, mais j'espère qu'on pourra le voir peut-être ici et puis et dans le coin, j'espère bien.
Ce lieu qu'est le Théâtre de Die est un lieu idéal justement pour la création. Est-ce que ce type de lieu est assez courant à trouver ou alors il y a des difficultés pour la création?
Pour la création, c'est pas toujours facile de trouver des espaces. Enfin, pour les premières étapes de recherche et autres, on arrive toujours à trouver. Parce qu'on a besoin de petits espaces. L'écriture a besoin d'espace pour pouvoir se faire, travaillant en laser, j'ai besoin de pouvoir à un moment poser l'espace tel qu'il sera. Du coup, il faut trouver des plateaux de la taille d'un plateau. Après, on n'a pas forcément de gradinage. Bon, ici, il se trouve qu'il est là. Et en fait, des espaces comme ça, il n'y en a pas tant. C'est souvent des théâtres qui ont une programmation, du coup, qui ne s'ouvrent que sur des temps réduits aux résidences. Qu'on ait beaucoup de compagnies, du coup, il y a du monde qui cherche ces espaces-là pour finir les créations. Du coup, c'est pas toujours évident. Après, on arrive toujours à trouver. Mais oui, il faut chercher un petit peu. Il n'y en a pas tant.
Est-ce que le numérique contraint justement le comédien sur la scène? Est-ce qu'on lui enlève un peu de sa liberté?
Le numérique est assez contraignant par plein d'endroits. Par son écriture, notamment là sur mes outils, je gère, ce serait dur à dire, mais je pense qu'il y a... Ouais, il doit y avoir plusieurs centaines, voire milliers de paramètres que je peux travailler sur le spectacle. Donc l'écriture est longue, puisque j'ai énormément de possibles. C'est vrai que j'ai une écriture où je travaille beaucoup avec des notamment sur le laser, des formes qui sont générées en temps réel. Mais du coup, typiquement, un carré, si je dessine un carré, j'ai le paramètre de la taille, j'ai le paramètre de la rotation, j'ai le paramètre de la position dans l'espace. Ça fait déjà deux paramètres pour la position, x, y, un pour la rotation, un pour la taille, on a déjà quatre rien que pour un carré. Et peut-être même un peu plus pour un carré, puisque je vais avoir des densités, des couleurs. Du coup, j'ai énormément de paramètres à gérer pour écrire le numérique. Les balles qu'on utilise, donc on a des balles numériques, enfin des balles lumineuses, qui sont aussi en cours de développement par un autre développeur qui est en Normandie. C'est des balles qui développent pour un autre spectacle, donc on va d'abord attendre que l'autre spectacle sorte pour vraiment en parler. Nous, on est en train de les bêta tester et de voir un petit peu les limites et autres. Mais pareil, c'est des balles sur lesquelles on a la couleur globale, on a un effet de strobe, on peut avoir une couleur devant derrière, on peut avoir jusqu'à 6 couleurs. On a des paramètres de est-ce qu'elle est en l'air, est-ce qu'elle est en bas, est-ce qu'elle est en haut de son apogée, est-ce qu'elle est à l'arrêt. Enfin, il y a énormément de choses un petit moteur pour vibrer qui permet d'envoyer des infos à l'interprète. Tu as une grosse nappe sonore et puis tu as un rendez-vous dans 3, 2, 1, faire bzz, 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 et pouf, et là il sait. Du coup, on peut avoir des rendez-vous très synchro sur des choses comme ça. Il y a beaucoup de paramètres à gérer qui font une écriture qui est complexe et qui est longue. Donc ça contraint l'interprète dans l'écriture et dans la création parce que les temporalités d'écriture sont longues. Après, ici, ça contraint aussi l'interprète dans son jeu, mais parce que c'est des choix et des propos. Le laser qui vient créer l'espace, il y a des moments où il vient vraiment créer des espaces très contraignants, mais parce que c'est le propos. C'est au début, il propose des espaces qui sont vivants, enfin, qui sont larges, qui sont en interaction, que l'interprète vient créer, vient poser, avec lequel il vient jouer. Et puis petit à petit, ces espaces se complexifient jusqu'à l'emmener dans une toile d'araignée où il se retrouve complètement pas bloqué, mais oui, complètement contraint et dans des espaces où il n'arrive plus à avancer, où il n'arrive plus à jongler, où il n'arrive plus à progresser. Voire qu'il l'emmène dans des espaces où qu'ils font complètement disparaître en tant qu'humain et en tant qu'interprète. Mais ça, c'est plus le propre de cette matière que du numérique. Et puis de ma manière de la travailler qui permet de raconter ça.
J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on parle un petit peu des personnes qui ouais. participent à ce projet. On peut peut-être les nommer et puis donner assez rapidement leur passion.
Du coup, on a dans l'équipe Loïc Faure, avec qui j'ai commencé le travail sur cette forme, de la compagnie Jongloïc. C'est un jongleur que j'ai rencontré à Montbéliard il y a 3 ans, 4 ans. On était tous les deux résidents sur deux projets différents, avec qui on a fortement sympathisé humainement. Puis je suis allé le voir sur son spectacle Home à Avignon l'année d'après, enfin l'été qui a suivi. Et pour moi, c'était une rencontre avec la jungle quand j'ai vu ce spectacle, parce que j'avais cette image de la jungle, de l'objet performatif, enfin de la jungle performative, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balles, wow, d'un truc où on est beaucoup dans la démonstration technique des possibilités du corps et des possibles de l'habilité qu'il peut avoir, mais où du coup, enfin comme avec le beatbox ou avec d'autres, c'est des choses qui peuvent très vite s'épuiser. Et dans son spectacle, il est beaucoup aussi dans la théâtre physique, dans une corporalité qui est une interaction physique avec la balle et avec l'environnement qui est très forte. Où par son jeu d'acteur sur scène, enfin par son jeu physique sur scène, il venait vraiment donner une place à la balle qui n'était pas uniquement une place d'une balle dans les mains du jongleur, mais une place d'un objet avec lequel il interagit, puis presque d'une personne. C'était presque un deuxième corps sur scène. Où là je me suis dit, putain, en fait en jongle il y a des choses à faire, il y a des choses à tisser au-delà de la performance, au-delà de donc c'est un peu ce qui m'a donné envie d'aller travailler avec lui sur cette forme et de me sortir, enfin d'aller expérimenter d'autres formes de corporalité et de jeu sur scène que la danse qui est le premier endroit où je suis allé travailler dans le spectacle, qui est un des médiums qui me parle le plus, enfin des médiums des corps qui me parlent le plus. Il y a Alexis Rouvre qui nous a rejoint récemment dans l'équipe. Il se trouve que Loïc a de plus en plus, enfin pas mal d'activités ces derniers temps, et que moi j'avais besoin de quelqu'un aussi en regard extérieur du coup. Donc Loïc m'a proposé de partir avec Alexis pour faire une reprise de rôle, et faire une reprise de rôle avant la créa, c'est pas vraiment une reprise de rôle, mais en tout cas qu'il crée à deux sur la partie jongle, ce qui permettait qu'il sorte en regard extérieur et que Alexis sorte en regard extérieur de temps en temps et qu'on soit plus sur un duo tournant pour la partie jongle. Et enfin, dans cette créa, on travaillera avec David Guéra, qui est compositeur à Lyon, Svindron, qui est son nom de scène, Svindron, avec qui j'ai déjà travaillé sur des précédentes formes, qui étaient le Lumarium et Shape of Light. Ou qui est un compositeur que j'aime bien, dont j'aime beaucoup les matières, qui a des matières un peu électroniques, mais qui peut aller chercher dans plein de choses, et avec qui on a une discussion qui est relativement fluide, qui arrive assez bien à comprendre ce que j'ai en tête, enfin en tout cas à me proposer des choses qui sont totalement qui correspondent à l'esprit que j'ai envie de donner aux choses. Du coup, j'ai choisi de repartir avec lui sur cette forme.
Il existe une visibilité sur Internet de la compagnie Icari ?
Oui, il y a un site web qu'il va falloir que je mette à jour. Peut-être aussi un jour, enfin, que j'y prenne un nom de domaine un peu plus personnel. C'est assoicari.wordpress.com. Il y a aussi une page Facebook qui est facebook.com/assoicari. De mémoire, ou juste slash Ikari, je sais plus, Ikari, I-K-A-R-I, Ikari, qui est la lumière en japonais, la lumière, mais la lumière qui nous attire, qui nous emmène, qui nous fait aller de l'avant.
Thomas Pachou, je vous remercie de votre temps que vous nous avez accordé pour nous présenter donc Post H, qui sera présenté gratuitement donc au Théâtre de Die, mercredi 6 novembre à 18h. C'est un spectacle tout public ?
C'est un spectacle tout public, oui, qui peut s'adresser tant aux, peut-être pas aux plus jeunes des plus jeunes, mais qui peut s'adresser tant aux enfants qu'aux adultes, avec plein de niveaux de lecture. Et voilà, donc au plaisir de vous retrouver et de vous présenter ça mercredi, et puis d'avoir vos retours et d'en discuter avec vous autour d'une clairette après coup.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
In the morning when it's time to